comme tous ceux qui dans le monde entier nous écoutent sur Internet, vous aussi, écoutez Music Box sur le net. Notre mot de passe, musicboxtv.com.
Dites-le à vos amis.
Musicboxtv.com.
Sophie Erfort qui publie Jack l'Éventreur démasqué aux éditions Talendier. Sophie Erfort, on va planter le décor. Whitechapel, 1888. Une prostituée est retrouvée morte, égorgée, tuée dans d'atroces souffrances. Ce sera la première d'une longue série et on ne sait pas encore qui est derrière.
C'est Pauline Nichols. C'est une femme d'âge mûr. Et puis finalement, elle va être retrouvée en pleine rue, dans Bucks Row, près d'une poissonnerie. Et ce sont deux charretiers qui vont faire cette macabre découverte. Au début, ils pensent que c'est une bâche qui est abandonnée. Ils soulèvent cette bâche et là, ils voient, et là, il s'agit de Robert Paul et Charles Cross. Ils voient une femme carrément égorgée. Et c'est là où ils donnent l'alerte. Et ça va être le début d'une longue série macabre de meurtres en série qui vont être plus sanglants. Plus on avancera dans le temps, plus ça va être un règne assez sanglant.
Alors, fur et à mesure, bien sûr, Scotland Yard est sur la piste, comme on dit. Et puis, il va y avoir une sorte de cache-cache avec ce personnage, ce tueur et Scotland Yard. Et finalement, on ne saura jamais. Il faudra attendre la fin du XXe siècle pour connaître la vérité grâce à vous, Sophie Erfort. Comment se sont déroulés cette sorte de jeu de piste que les uns et les autres essayaient de se redonner entre Scotland Yard et... ce Jack l'Éventreur qui s'est nommé lui-même Jack, d'ailleurs.
Oui, Jack l'Éventreur, au début, se surnommait la Terre Rouge. Mais à partir de la lettre du 25 septembre 88, une des premières lettres envoyées à la police de Scotland Yard, déjà, on a une signature Jack l'Éventreur. Un pseudonyme était né et ça a été une succession d'envois permanents au patron de l'époque, Sir Charles Warren, qui était déjà un patron de police qui bénéficiait d'une très mauvaise image auprès du peuple. On savait qu'il avait diligenté une répression violente en 87 avec des grévistes qu'il avait maltraités. C'était un des trois Bloody Sunday de l'histoire. Et cet homme-là va se faire harceler littéralement par Jack l'Éventreur et va se jouer un jeu macabre entre la police et cet assassin, auteur présumé des lettres au cher patron, qui est Jack l'Éventreur.
Alors, dans ces années, je ne sais pas si on parlait de tueurs en série, mais finalement, on s'aperçoit que les tueurs en série ont souvent des procédures, des manières de faire. Ce Jack l'Éventreur, il suit effectivement certaines procédures, mais il brouille les pistes aussi.
C'est un tueur scriptomane, il est à la fois pervers et en même temps capable de brouiller les pistes en essayant de contrefaire à son écriture. Dans les lettres qu'il envoie à Scotland Yard, au cher patron, l'écriture est souvent différente. On sait qu'on peut, à raison, isoler à peu près une trentaine de lettres sur les 600 qui ont été envoyées continuellement à Scotland Yard entre 88 et 96. On peut en identifier 30 de la main présumée de l'assassin. Les autres émaneraient de canulars envoyés continuellement à la police.
Alors Sophie Erfort, je vais revenir à vous, à votre histoire. Comment une jeune adolescente, à peine adolescente, se passionne pour Jack l'Éventreur ?
En fait, j'ai eu mon déclencheur pour le centenaire de l'anniversaire des meurtres de Jack l'Éventreur. Je sais que c'est un peu macabre. En 1988, j'étais en train de boire un soda devant Canal+. C'était la célébration de Canal+. Et je tombe sur cette théorie de David Wicks portée à l'écran. C'est la thèse de Stephen Knight portée par David Wicks à l'écran avec Michael Caine dans le rôle du détective Aberline et Jane Seymour qui joue sa maîtresse. Et mettant en avant le complot royal et évoquant l'idée que le médecin de la reine, le docteur William Whittingall, était schizophrène et s'en prenait aux prostituées pour empêcher qu'on révèle la relation secrète entre une prostituée du nom d'Annie Crook et le duc de Clarence qui était le petit-fils de la reine Victoria. Alors bien sûr, je n'y croyais pas du tout, mais ça suffit pour susciter mon intérêt. J'en ai même renversé mon verre de soda, je m'en rappelle, et je me suis dit, il faut absolument que je m'approprie cette affaire, je vais me plonger dedans. Et ça, dès l'âge de 11 ans que j'ai commencé à compiler les livres de Charles Dickens, de Charles Booth, contenant toutes les informations sur la sociologie des mœurs de l'époque victorienne, mais également sur tout le climat de terreur qu'il y avait à cette époque. L'Angleterre est comme la première puissance industrielle au monde, mais c'est une puissance qui est contestée parce qu'il faut aussi que les petites roues du progrès l'actionnent, et c'est aussi une civilisation de misère. Si on regarde dans l'East End où ont lieu les meurtres à Whitechapel, ça tient dans un mouchoir de poche, un périmètre de 2 km², et c'est là que Jack l'Éventreur va choisir de frapper en s'en prenant à des petites gens. Et avant lui, on ne parlait pas de tueurs en série. Et il a tué comme 5 prostituées. Et à l'époque, on parle de meurtre assez horrible, hein, d'une nature, on va dire, rituelle, puisqu'il a prélevé un peu plus tard, hein, pas lors du premier meurtre, mais dès le deuxième meurtre, il prélève des organes, des bouts d'intestin, des morceaux de vessie. Et là, on se dit, on a affaire à un malade, quelque part, à un pervers. Et on parle à l'époque de crime sans motif, puisqu'on ne parle pas encore de tueur en série. C'est bien plus tard qu'on va aller, on va nommer ce genre d'assassin tueur en série.
Dixie Corner Music Box avec Gérard Quentin.
Sophie Herford est toujours avec nous, elle nous dévoile donc dans son livre « L'identité de Jack l'Éventreur », livre qu'elle publie aux éditions Talendier, suite à une longue enquête. Sophie Herford.
Music Box.
Alors Sophie Herford, c'est devenu presque obsessionnel finalement, puisque votre adolescence, vous l'avez passée entre la France et l'Angleterre, quelquefois en trichant un peu sur l'âge et autres pour tout avoir accès à certains dossiers et archives. Et puis, à quel moment vous avez senti que vous teniez un fil et que vous pouviez tirer sur la pelote comme ça pour arriver à vos fins?
À partir du moment où, consultant les rapports de police, j'ai mis la main sur un feuillet d'éviction, c'est-à-dire le rejet d'une candidature qui avait toutes les raisons de m'inquiéter puisqu'elle a lieu 3 jours avant les meurtres. Au début, je ne vais pas faire forcément une relation, mais comme j'avais lu les rapports récents qui avaient été faits années 80 par la police du FBI qui enquête toujours à l'heure actuelle sur les crimes de l'éventreur et qui nous disait dans le profil type qu'on avait affaire à un tueur nourrissant un fort dépit envers les autorités de Scotland Yard et ayant certainement connu un rejet ou une éviction, et ça correspondait point par point. Et c'est dès l'approche du journal intime de cet homme que je constate une haine forte envers les tueurs, enfin envers les prostituées, qu'il appelle les plus bas déchets de l'humanité, the dregs of humanity. Donc il les considère comme des pantins, il les dépersonnalise. Et là, je me dis, ça fait quand même beaucoup. Cet homme a des raisons d'être en colère, puisqu'il devait être reçu par le patron de Scotland Yard, et que le patron de Scotland Yard, justement, le 28 août 88, soit 3 jours avant les meurtres, le meurtre de Polly Nichols, le patron Sanchez Warren va refuser de le recevoir, en prétextant déjà d'une qu'il n'a pas le profil, qu'il n'a aucune expérience dans la criminalité, qu'il est simplement un exploitant de thé familial et qu'il a une très mauvaise réputation depuis qu'il s'est fait agresser dans les plaines du Bengale. Donc là, effectivement, ça commence à partir de là. Et cette lettre d'éviction qui comporte la réserve de timbre des réservistes du Kafir, du Regiment Sussex, ne pouvait appartenir qu'à Sanchez Warren. Et on retrouvera un morceau de lettre près du corps d'Annie Chapman. Elle avait une petite enveloppe où, soi-disant, elle consignait des pilules, mais rien ne prouve que ce soit cette même enveloppe, puisque cette enveloppe comporte des fragments de lettres de mon suspect. Donc WSQ, ça fait beaucoup d'occurrences.
Alors, à la fois beaucoup d'occurrences, alors on ne sait pas trop si ça peut être laissé par hasard ou pas, puisque finalement, cet assassin, j'allais dire présumé, puisque on est à peu près sûr, du moins vous êtes à peu près sûr, mais il a laissé beaucoup d'indices, lui aussi, mais des indices a priori volontaires.
Absolument. Si vous prenez par exemple la 5e victime qui est assassinée dans la nuit du 8 au 9 novembre 88, jour de la fête du maire, Lord Mayor Show, on va retrouver, d'ailleurs on défoncera pas tout de suite la porte puisque Sanchez Warren va donner sa démission vouée à l'impuissance, et quand on défonce la porte à 11h moins le quart, qu'est-ce qu'on retrouve? Des initiales en lettres de sang, 2 V qui forment un M et un autre M, Melville McNaughton, de là il n'y a qu'un pas pour faire la relation, et je me dis que ça fait quand même beaucoup d'indices que l'on retrouve sur les lieux des meurtres.
Alors il a fallu que ce soit une petite Française qui défie Scotland Yard finalement.
Une petite Française qui a l'art d'irriter l'establishment, parce que, à part quelques spécialistes qui cautionnent mon travail, justement, le commun des mortels, ou en tout cas en Angleterre, peine un petit peu à faire entrer ma thèse dans les canons des thèses qui ont été identifiées. Sauf qu'en 2008, au Docklands Museum, j'ai la surprise de faire partie des 10 thèses officielles retenues par justement les institutions muséales et par le Docklands Museum. Pendant un an, j'ai pu être exposée, enfin, mon travail a pu être représenté dans ce musée. Donc, ça a été un début de reconnaissance, mais on attend toujours la traduction de l'œuvre. Voilà.
Merci Sophie Herford. Découvrez donc qui est Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur démasqué, c'est aux éditions Talendier. Ça se lit à la fois comme un polar, mais comme un document de police.
Absolument.
Finalement.
Comme un document de police, un essai, et accessoirement comme un polar. Vous avez tout résumé, Gérard. Merci à vous.